RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Thomas Cardi, vous êtes très nombreux sur le hashtag RMC Live une nouvelle fois ce soir, sur l'application Direct Studio également. Et on vous attend au 32-16 pour revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 ce soir face à l'AS Saint-Etienne. Draxler, Cavani, Di Maria et le jeune Diaby ont marqué les buts parisiens. On était il y a quelques instants avec un supporter du Paris Saint-Germain qui nous a appelé au 32-16. On va accueillir Hervé, supporter des Verts, qui lui aussi nous a appelé, qui est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir Hervé.
Salut Hervé. Salut l'after, salut Jonathan, salut Monsieur Villas.
Alors Hervé, jusque-là, le début de saison des Verts, c'était le Vert, à ce qu'il y a de le dire, à moitié plein finalement. 4 nuls, une victoire, bah maintenant ça fait plus qu'une victoire en 6 matchs, pas beaucoup quand même. Hein.
Mais c'est ça, voilà, c'est le souci avec ces séries de matchs nuls. Alors ça entretient la série d'invincibilité, c'est certain. Par contre, quand ça s'arrête comme ce soir par une défaite, qui plus est très lourde, mais mérité, c'est pas le souci. Bah du coup, la série de matchs sans défaite, elle transforme en série de matchs sans victoire. Donc c'est vrai que c'est un cinquième coup de massue derrière la tête après les 4 buts. Déjà, bon, faut aimer l'after et aimer les Verts pour vous y appeler ce soir, les gars.
Oh, donc, Hervé, tu sais que t'es toujours le bienvenu en plus.
Pardon ?
Tu sais que t'es toujours le bienvenu en plus, Hervé.
Ben oui, c'est pour ça, du coup, bon, ça va, vous me consolez.
Si on l'insulterait, je pense qu'il nous appellerait pas.
Ouais, c'est pas faux.
Non,
sur le premier quart d'heure, Hervé, t'étais emballé,
quand même,
t'étais enthousiaste. C'est ça le truc, c'est que, honnêtement, à la mi-temps, bon, je savais de toute façon que j'allais vous passer un petit coup de fil. Du coup, à la mi-temps, je me suis dit, si le match laisse l'impression de cette première mi-temps, ben, je vous aurais dit qu'au final, le meilleur match des Verts depuis le début de saison, ben, on le perdait. Parce que c'est une des meilleures mi-temps qu'on a fait depuis le début de cette saison.
La phase positive de Saint-Etienne, elle dure, allez, quoi, 15-20 minutes?
Oui, voilà.
Jusqu'au premier but.
Mmh. C'est pas toute la première mi-temps.
Mmh. Et ça renonce trop vite.
Et c'est après, exactement. Autant au début de match, ils arrivent, t'as l'impression que le plan de jeu est assez clair, qu'ils veulent les prendre en compte, qu'ils veulent, voilà, ils jouent à 3 derrière avec 5 milieux de terrain. C'est clair. Mmh. Mais une fois le premier but pris, t'as l'impression qu'une chape de plomb s'est abattue sur leur tête et qu'ils se présentent en victime expiatoire. Donc j'ai du mal à comprendre. Quel est le raisonnement des joueurs sur ce match-là? Parce que il y avait des choses positives en première mi-temps. Au milieu de terrain, Hervé sait que c'est un peu un de mes chouchous, mais Selnaes avec Mvila, ils arrivaient quand même à ressortir 2-3 ballons proprement.
C'est un de tes chouchous, Selnaes?
Ouais, j'aime bien.
Ah, Selnaes, oui, c'est un des points communs qu'on a avec Jonathan.
Je suis pas fan de Selnaes.
Qu'est-ce que t'aimes
vraiment? Je trouve que
il est lent.
Ouais, je trouve qu'il ralentit le jeu vraiment.
Il est lent, mais il a une belle qualité,
c'est sûr, mais je trouve qu'au milieu de terrain,
ça manque de percussion.
Hervé, vas-y.
Dans sa vitesse d'exécution, je suis d'accord, c'est pas le joueur le plus rapide, mais par contre, avec sa qualité de passe, il arrive des fois à sauter une ligne ou deux. C'est des passes qui sont toujours au laser et qui sont toujours très précises pour ses coéquipiers. Donc, je trouve qu'il compense un petit peu sa lenteur d'exécution par la précision de son exécution.
Et il est élégant.
Et il est élégant, voilà. C'est pas un joueur méchant, il défend super bien, il est jamais par terre, il défend toujours debout. Donc c'est vrai que sur les ressorties de balles, pareil, j'ai trouvé qu'on n'était pas trop maladroit, on n'était pas trop mal. Ce qui a vraiment pêché, par contre, sur la deuxième, en plus de un petit peu le lâcher prise qu'on a vu côté stéphanois. Et alors ça, pour le coup, petite parenthèse, je pense que c'est le mal pour le bien, en tout cas, qu'il faut souhaiter, et que Jean-Louis Gasset va, à mon avis, souligner, parce que qu'on perde contre Paris, bon, grosso modo, ça va arriver à plein d'autres équipes. Par contre, j'aurais préféré qu'on perde avec le panache qu'avait Minime il y a quelques semaines, même si au final, ils avaient perdu. Mais donc voilà, c'est vrai que sur les ressorties de bas, on était pas mal. Et je reviens là-dessus, ce qui a vraiment pêché après, ça a été le repositionnement de Gabriel Silva sur le côté droit. Où là, par contre, on a pris l'eau à chaque coup. C'était à chaque fois sur le côté droit. Diaby, qui a rien réussi dans tout le match. J'entends parler de Diaby. Lui, c'était mon joueur préféré du match. Il a rien réussi. Il met son but, mais il est sur le côté droit de notre défense. Di Maria met son but sur le côté droit de notre défense. Donc, sur le côté droit, on a vraiment pris l'eau encore plus sur la deuxième mi-temps. Après, voilà, c'est vrai que là, on a une série de matchs en plus qui se profilent avec des équipes qui ont plutôt bien démarré, puisqu'on va aller, on va recevoir Rennes la semaine prochaine. On se déplace à Toulouse et on reçoit Monaco. Donc c'est vrai qu'avec ce match de Paris, ça nous faisait 4 matchs un petit peu à...
Alors c'est vrai, Hervé, t'as raison de le dire, parce que le calendrier est sympa. Un prochain match contre Caen, déplacement à Toulouse, Monaco. Ensuite, Saint-Etienne ira à Lille et ils recevront le Stade Rennais. Ça, c'est intéressant. Oui, voilà. C'est, sur le papier, on va dire, c'est des adversaires directs.
Mais Hervé, tu t'attendais à ce système tactique en début de match, connaissant Jean-Louis Gasset. Moi, je m'attendais à un peu plus de panache, d'autant plus que
le
Paris Saint-Germain était un peu diminué. Je m'attendais à quelque chose.
Ouais, pardon.
Vas-y, Hervé.
Moi, je m'attendais vraiment pas à ce schéma-là. Bon, Mon Paquet était annoncé un petit peu incertain. Finalement, il est là au début du match. C'est vrai que c'était une formule un petit peu que Galtier avait essayé plein de fois, ça, et notamment face au Paris Saint-Germain.
PSG, notamment.
Voilà. Et donc, c'est vrai que du coup, Gasset, moi, je pensais justement qu'il arriverait là, en disant, voilà, il faut qu'on trouve un petit peu nos marques offensivement, donc on continue à bosser comme on l'a fait depuis le début de la saison. Le gros souci qu'on a, de toute façon, c'est dans les 30 derniers mètres, donc blinder un petit peu derrière, même si ça a été très efficace au final. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Et donc,
très efficace, on prend quand même 4 buts, hein, Coco.
Oui, non, mais au début, je parlais au niveau de la défense. Hein. Ah, donc après, est-ce que justement, ce changement un petit peu surprenant, mais c'est pas ça qui a surpris les joueurs et qui au final, ben voilà, au bout du deuxième, se sont dit bon, ben ok, ce soir c'est pas pour nous, ça veut pas rigoler, je sais pas, mais effectivement les choix de Gasset, voilà. Après Jean-Louis Gasset, il y a quand même un petit truc avec lui, c'est que il se loupe sur des compos d'équipe ou sur des coachings. Allez, une fois tous les 7-8 matchs, quoi. L'année dernière, il nous avait fait ça deux fois. Là, à souligner aussi, et pareil, c'est tellement rare avec Gasset depuis qu'il a assenté pour être souligné, l'entrée des joueurs. Alors, il le fait un petit peu tard, mais les Casper.
C'est à contre-temps.
Quoi. Ouais, à contre-temps.
Pourquoi Jules rentre? Il a aucun intérêt à le faire rentrer. Je l'aime
exactement.
Beaucoup,
tu sais, mais moi aussi, j'aime
pourquoi
beaucoup.
Pourquoi faire rentrer ce joueur-là à ce moment-là du match? Super. Alors, tu peut-être pour pas prendre une valise, mais
tu le fais rentrer au pire dès que t'as pris le deuxième. C'est-à-dire, tu laisses même pas l'engagement fait et tu dis bon, ben allez, là, on va mettre un petit peu plus de nerfs au milieu parce que c'est un joueur super, très très actif, Doucet, qui récupère pas mal de ballons. Mais après, Berić rentre à ce moment-là du match, c'est l'envoyer un petit peu à l'abattoir. Akuna qui revenait de blessure, pareil, est-ce que c'est le bon match pour le faire re-rentrer, même si lui, c'est le premier joueur qui est rentré côté stéphanois. Après voilà, on a une charnière qui c'est un petit peu les Expendables, hein, la charnière, hein, c'est Perez Subotic, c'est voilà, il y a de l'intelligence de jeu, il y a du placement. Bah,
l'année
de la
dernière,
technique.
Tout le monde disait que c'était génial, Hervé. On va pas dire maintenant que ça a acheté, tu vois.
Ah non, mais par contre, le truc qu'il y a, c'est que c'est comme tout le monde, hein, comme vous et moi, ils ont pris 6 mois, ils ont pris 8 mois.
Ah non, je vois pas.
Le temps passe. Non, ah ouais, mais bon, toi, tu restes toujours éternellement jeune. Voilà.
Ah oui.
Là, t'as vieilli un peu là. Hein.
Bah non, j'ai coupé la barbe et tout, c'est bien. Tu raccourcis la mort. J'ai perdu 10 piges là, mon gars.
Du coup, non, la charnière va poser.
Fout ta charnière,
tu
la barbe.
Non, mais tu l'as noté surtout. C'est ce soir, l'absence la plus notable pour moi, c'est l'absence de Debuchy.
Mais voilà, côté droit, surtout
côté
sur
droit,
un match comme ça. Voilà.
Notamment une.
Bah, genre d'expérience.
Voilà. Aussi, mais aussi.
Camela aussi.
Non, il manquait des points forts.
C'est deux joueurs qui
sont
comme, essentiels.
Comme on le disait, moi, je m'attendais, Jean-Louis Gasset, je pensais qu'il allait s'inspirer, je le connais un peu, il est roublard, il est malin, je pensais qu'il allait s'inspirer de certaines équipes, de certains coachs qui avaient tenté des coups au Paris Saint-Germain, je repense notamment à Guingamp, l'année dernière, qui était venu, qui avait essayé de les presser haut, de tenter quelque chose. Tu sais qu'au Parc, ça sera compliqué, tu sais que si t'attends devant ton but, à un moment donné, ils vont trouver les solutions. Je m'attendais à...
Jouer sur les points forts de cette équipe, qui en a quand même beaucoup. C'est quand même une équipe avec des joueurs qui sont techniques devant. Mais au final, Kazri, je me demande combien de ballons il a touché dans ce système-là.
Mais Kazri, Kazri, il est utile dans les 30 derniers mètres. Si c'est pour le faire partir à 70 mètres,
il a dû toucher, je sais pas, une vingtaine de ballons. Le pauvre, on l'a pas vu du match, alors que c'est un joueur qui peut être super dangereux, si notamment face à la typologie de la défense parisienne. Donc bon, c'est vrai que c'est dommage.
On remercie Hervé, en tout cas, qui nous a appelé au 32-16, supporter des Verts Saint-Etienne, qui a perdu 4-0 au Parc des Princes ce soir face au Paris Saint-Germain. Pierre est supporter du PSG, justement. Et lui aussi nous a appelé, il est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir, Pierre.
Salut Nico, salut les amis.
Salut Pierre.
Alors Pierre, toi, je crois que t'as flashé sur un petit jeune du côté du Paris Saint-Germain, le dernier buteur de ce match, à savoir le petit Moussa Diaby là.
Écoutez, il y a peu de joueurs qui ont un volume comme ça de course. Il y a peu de joueurs. Il a pas trop de maîtrise technique, mais ça, bon, ça va venir avec le temps. Mais
Pierre, je te coupe deux secondes. Priorité au direct. Il y a Marco Verratti qui est en zone mixte.
Ouais,
on va l'écouter.
Ouais, on en parle après de lui.
Il a fait un bon choix tactique et on est arrivé à jouer mieux et se décider plus de passion.
Il y a eu 4-0, Marco. Est-ce que c'est un contenu qui est satisfaisant ou est-ce que le score est pas un petit peu trompeur sur le contenu du match pour le PSG?
Oui, peut-être. Première mi-temps, je pense qu'on a concédé pas mal d'occasions à Saint-Etienne. et on n'a pas créé beaucoup. Et peut-être la première mi-temps qu'on a fait pas ce qu'on devait faire. Mais la deuxième mi-temps, je pense qu'on a joué beaucoup mieux, on n'a pas concédé d'occasion. Je pense que pour la deuxième mi-temps, 4-0 c'est un peu beaucoup, mais je pense qu'on a mérité ça.
Est-ce que l'équipe te semble confiante avant Liverpool?
Oui, bien sûr, parce qu'à la fin on vient de gagner tous les matchs. Après, on sait que sûrement que Liverpool c'est un match très différent de tous les autres qu'on a joué jusqu'à aujourd'hui. C'est une équipe qui joue très bien à la maison. C'est une équipe qui a l'expérience pour jouer cette Champions League. On est sur les en finale, c'est un test important. Sûrement c'est rien de décisif, mais c'est bien qu'on commence cette équipe.
C'est bien d'avoir élevé, on
était
champion.
Ah, Marco Verratti, match
difficile dès les phases de poule.
Oui, peut-être, parce qu'on sait qu'on va avoir des difficultés, on sait que c'est un match très serré. Et ça, sûrement, c'est bien pour nous. Et si on passe le match comme on le souhaite, comme on veut, sûrement, c'est un match où tu sors de cette groupe avec encore plus de confiance, parce que tu joues contre des grandes équipes, surtout dans des stades très importants, et il peut donner beaucoup de confiance.
Ça veut dire d'être sur le banc. La réaction en direct de Marco Verratti du Parc des Princes, on rappelle, hein, le Paris Saint-Germain qui jouera mardi à Anfield face à Liverpool en Ligue des Champions. On était avec Pierre il y a quelques instants, supporter du Paris Saint-Germain. T'es toujours là, Pierre?
Ouais, je suis là.
Ouais, désolé Pierre, il était en direct, Marco.
T'en prie, y a pas de souci. Ouais, je vous disais que moi, Nsoki, il y a pas beaucoup de joueurs comme ça qu'on a un volume. De quoi?
Diaby, non?
Oui, Diaby. Vous dites Diaby, pardon, Nsoki, excuse-moi, je me suis trompé. Diaby, ouais, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont du volume comme ça physique en termes de course et tout. Moi, c'est ce que j'apprécie chez ce gamin-là. Il a quand même récupéré pas mal de ballons, notamment sur une phase de contre de Saint-Etienne où il est revenu sur le joueur pour récupérer la balle. J'ai apprécié ce genre de geste-là.
Physiquement, il est là, mais attends, après avec les pieds, il y a quand même quelques problèmes encore. Hein.
Ouais, d'accord. Il y a des problèmes.
Techniquement, il est quand même pas non plus. Okay. Tu vois que c'est pas un joueur.
Ouais, d'accord, mais il y a des problèmes techniques, mais il y a juste une chose à savoir, c'est que l'année dernière ou l'année d'avant, on aurait mis un jeune comme ça. Sur des matchs comme ça, il aurait pris l'eau et on n'aurait pas gagné 4-0. Là, aujourd'hui, on peut se permettre de gagner.
Par exemple, c'est des belles rentrées aussi.
Faut pas ouais, mais c'est ce que je te dis. C'est exactement ce que je te dis. Et on a un coach qui est plutôt intelligent par rapport à ça, parce que moi, je trouve que il a l'intelligence de faire jouer ces jeunes-là. Et aujourd'hui, de toute façon, le fait que le PSG soit reconnu aussi, pour que le PSG soit reconnu comme un club qui compte, faut aussi qu'on sorte des gamins comme ça et que ça joue et qu'on les voit jouer. Ça, c'est important. Après, par exemple, il est pas issu du centre de formation, mais Bernat, moi, ce soir, j'ai apprécié. Un mec qui a le ballon qui lui colle au pied comme ça, il a des passes quand même qui sont assez précises. Moi, j'ai trouvé que c'était.
Puisque tu t'arrêtes, tu parles de Bernat. Tiens, il y a le sondage qui a été lancé sur le compte Twitter de l'After. Supporter parisien, qu'avez-vous pensé de la prestation de Juan Bernat? Vous êtes 19% à avoir répondu top, 30% nul et 51% bof. Voilà. Alors sache que ça divise aussi au sein de la rédac d'RMC Sport, notamment au sein de l'équipe de la
Moi, je comprends pas.
Attends, Pierre, je vais te poser une question. Il joue à quel poste, Bernat?
Il joue arrière gauche ou il peut jouer sur. J'ai pas tout dit. Si tu joues à 5, tu joues à 3 derrière, tu mets Bernat à gauche, vu le toucher de ballon qu'il a le gamin, je peux t'assurer que c'est un plus sur les phases offensives.
Attends, je finis.
Il y a une chose qui est certaine, c'est que gros volume de jeu, machin et tout, t'as 3 monstres derrière. Regarde le match qu'il a fait, Kimpembe, c'est un dieu ce gamin. Et aujourd'hui, on a un mec qui a des pieds en or en défense centrale, et ce gars-là, il va se défoncer parce qu'il aime le club. Tu peux te permettre de mettre un mec comme Bernat à gauche quand tu joues à 5 derrière avec un Lascar comme Kimpembe? Arrêtez les gars, en Ligue des Champions, on va aller à Anfield, ça va faire comme d'habitude quand on touche un gros sur le premier match dans les phases de poule, on va gagner à Anfield.
Ouais,
on va gagner
à Anfield.
Oui. Non, j'ai pas dit qu'on va leur rouler dessus.
Je comprends que tu ton enthousiasme, t'es supporter du PSG.
Non, mais c'est pas une question de.
Mais on doit quand même voir les choses en face.
Je vois les choses déjà, en face, c'est qu'aujourd'hui,
quand tu joues à 3, Pierre, t'as besoin de 2 mecs sur les côtés qui soient hyper rapides pour faire.
Tiens, messieurs, la réaction en direct également de Yann Mvila du côté du Parc des Princes. On va l'écouter, le milieu de terrain de Saint-Etienne.
Ouais, c'est une chose qui arrive. Notre problème, c'est l'efficacité devant. Et on n'a pas réussi à être efficace ce soir, donc voilà, il y a énormément de regrets, surtout sur la première mi-temps.
Il y a Mbappé en direct en conf de presse, ou plutôt en zone mixte. Mmh. Victoire 4-0 du PSG ce soir face à Saint-Etienne.
Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a ce penalty en deuxième, en début de deuxième mi-temps qui nous, voilà, je pense qu'il nous fracasse. Et après, ben, on essaye de pousser, ça laisse des espaces et avec des tels joueurs, ben, ça concrétise tout simplement.
Le score est sévère.
Oui, c'est sévère. Ben, je pense que nous, vraiment, il faudra ne pas penser à ce score. Juste, on va essayer de retenir la première mi-temps et essayer de jouer comme ça maintenant pour les prochains matchs.
Ton analyse de footballeur, il y a le match contre Liverpool qui tout le monde attend. Est-ce que tu vois cette équipe parisienne embêter Liverpool? Tu connais bien le championnat.
Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, on sait tous la capacité, surtout d'individualité de Paris. Alors après, on sent très bien aussi sur le terrain que c'est un très bon collectif. Ils vont récupérer d'autres joueurs, donc... Oui, bien sûr, ils peuvent mettre en difficulté n'importe quelle équipe, je pense.
Voilà, c'était l'analyse de fin de match de Yann Mvila, le milieu de terrain de Saint-Etienne. Juste rappel quand même les stades de Saint-Etienne depuis le début de saison, c'est 3 nuls, une défaite, une victoire.
C'est pas jojo.
Après, on peut être un peu plus mitigé sur Bernat. Il a quand même les symptômes des latéraux modernes, c'est-à-dire que c'est un attaquant.
Il est ailier à la base. Hein.
C'est un ailier intéressant dans le système, comme tu dis, Pierre, c'est ça, pardon.
L'auditeur. Oui, c'est Pierre, ouais, le supporter du Paris Saint-Germain.
T'es encore là, Pierre?
Oui, celui-là, ça va bien.
Je comprends ta vision par rapport au système A5 et ce qu'il peut apporter dans ce schéma-là. Il est intéressant offensivement, on l'a vu ce soir. Après, dans un système A4, comme a joué Paris ce soir, il est plus en difficulté. Il a
notamment
en début de match. Alors, à prendre avec des pincettes, forcément, c'est un garçon qui a pas joué beaucoup l'année dernière, qui revient, il faut lui laisser du temps, il y a pas de souci sur ce point-là.
Après ce que je vous dis c'est A5 ça peut être jouable. A4 en effet, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être un peu léger sur le repli défensif. Il y a aucun problème là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu joues à 4, le problème c'est que les joueurs du PSG, Verratti, machin et tout, quand on joue à 4 derrière, ils sont habitués à jouer à 3 au milieu. Donc le problème, c'est que s'il y en a un qui fait le même boulot à 3 quand ils sont à 2, c'est-à-dire qu'ils décrochent pour aller vers l'avant, forcément t'as un seul mec qui se retrouve en sentinelle, tu vois. T'as pas un autre mec qui fait le tampon. Regardez quand on joue à 3.
Mais
quand
les habitudes en fait pas à changer, t'as un nouvel entraîneur.
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis ça.
C'est pour ça qu'il vient bien.
Ouais, moi c'est surtout ça que je vois, c'est que on a un nouvel entraîneur qui prend des risques. Et mine de rien, jusqu'à maintenant, on est le PSG, on a un bon effectif, machin et tout. Mais jusqu'à maintenant, ça marche et les joueurs ils adhèrent. Donc moi, le seul que je trouve qui adhère moyen, c'est Verratti. Je le trouve pas affûté en fait.
Il revient, Pierre, là. Il était absent au début.
Ouais, d'accord. Ouais. Il va nous le faire combien d'années il revient? Il va nous le faire combien d'années de suite il revient? Attends, là, il revient doucement, machin et tout. Non mais attendez, moi le problème c'est ça que je comprends pas, c'est que il y a des fois où, quand on parle du PSG, on peut s'acharner sur certains joueurs qui font pas le taf, comme ça a été le cas pour Di Maria pendant un moment et tout machin. Le problème c'est qu'à Verratti, j'ai l'impression que au PSG il est un peu intouchable en fait. Je sais pas pourquoi. Il est un peu intouchable.
Ah, ça commence.
On peut pas dire Verratti. On peut pas dire Verratti ceci, Verratti cela, machin et tout.
Moi, je te comprends aussi. Il y a une attente.
Moi, je suis désolé. Quand il y a un moment, t'as un Rabiot. Moi, je suis désolé quand tu viens.
Énormément de choses ces dernières années.
Exactement.
Les prolongations sur prolongations.
C'est ce que je vous dis. Les supporters commencent à un petit peu en avoir marre.
Mais la première année, il rend pas ce qu'il a donné.
Ça fait plusieurs saisons.
Je vous dis une dernière chose, les gars. Moi, regardez, je suis président du PSG, ou je suis même Antero Henrique pour aller loin. Moi, je suis désolé, mais je prends les problèmes les uns après les autres. Il y a 3 saisons que Rabiot, il tient sa place au milieu de terrain. Pourquoi c'est pas la chose que t'as traité en premier? Pourquoi t'as pas traité ça en premier? Le gamin, je sais pas combien il gagne, Rabiot, peut-être entre 2 et 3 millions, ou un peu plus, là, en ce moment. Le mec, il demande 7 millions, mais c'est normal qu'il te demande 7 millions.
Je vais répondre avec les mêmes mots que tu viens d'employer, sauf qu'aujourd'hui si t'es le président du PSG ou Antero Henrique, c'est pas toi qui commande au Paris Saint-Germain, et ça c'est un vrai problème aussi. Aujourd'hui t'as un fantôme, t'as un monstre à on sait pas combien de têtes, et au final c'est aucune de ces têtes qui commande, ça se passe au-dessus. Tu vois, on sait pas trop. Regarde, quand Thomas Tuchel vient chez nous et qu'il explique qu'il est pas satisfait à 100% du mercato, on sait même pas vers qui se tourner pour dire finalement t'as pas eu le 6 que tu voulais, t'as pas eu les latéraux que tu voulais, t'as pas eu l'autre attaquant que tu voulais, et c'est la faute à qui aujourd'hui alors?
Bah, Enrique, c'est la faute à Enrique.
Ah non, parce que visiblement il a pas les mains libres, donc tu vois.
C'est, mais il a, c'est... attends, il a pas les mains libres, le mec. Attends, il a pas les mains libres, le mec de quoi? Il a vendu Guedes.
S'il avait les mains libres, Tourelle serait pas l'entraîneur du PSG aujourd'hui, je te le dis tout de suite.
Ouais, et bah dans ce cas-là, fallait mettre Tourelle manager général et virer ce mec-là.
Parce que c'est ce que je te dis.
Allez vendre Guedes à Valence, 40 millions plus 17 de bonus payés en 6 fois. Non mais on est à Carrefour Market là.
Non mais Pierre,
non, mais bah,
c'est la conséquence.
Et après on passe pour des glands partout parce qu'on fait n'importe quoi.
Pierre, c'est la conséquence aujourd'hui, c'est la conséquence des erreurs passées finalement. Il y a des erreurs qui ont été faites. Notamment sur Rabiot, puisque le cas Rabiot, finalement, et Areola.
Mais il faut dire les choses à fond. Le vrai problème du Paris Saint-Germain, et on cesse de le dire depuis des mois maintenant, quand on parle de ces problèmes de gouvernance, c'est qu'ils ont un président qui est un président fantôme. Nasser El Khelaifi ne sert à rien, non, à part faire des déjeuners avec les joueurs.
Mais Nasser, il décide de rien.
Mais il y a quand même une chaîne de commandement. Nasser, par exemple, ça tient de sa responsabilité de se dire, écoutez, que ce soit moi qui décide ou pas, Rabiot, il est en fin de contrat. Cette année, il peut signer libre n'importe où en janvier. Eh ben, c'est une priorité pour le club de savoir comment le gérer. C'est une priorité pour le club d'arrêter de répondre favorablement à tous les joueurs qui viennent taper à la porte en disant, hey, Coco, file-moi une augmentation. Verratti, il a fait combien de fois ça? Combien de fois il l'a fait? C'est Nasser qui a accordé les augmentations à Verratti.
Le problème, c'est que
Nasser a été trop gentil avec certains joueurs et que ça a créé un précédent qui fait que certains joueurs comme Rabiot maintenant hésitent à signer la prolongation contrat.
Je vais apporter une précision sur Nasser.
Il est sympa et tout, hein, mais.
Non, c'est pas une question de sympa. Non, attends, parce qu'il faut pas le prendre pour un glandu non plus. Le mec, c'est le président du PSG. Il a quand même signé la même année Mbappé et Neymar. Donc moi, après, déjà, à partir de là, on discute.
C'est pas lui qui les a fait.
Déjà. Ok. Moi, après,
c'est par contre,
on
discute.
Écoute, celui qui a été à Barcelone, qui est descendu de la bagnole à côté de Jean-Claude Blanc avec les contrats dans la main, c'est lui. C'est quand même lui. Il y a un moment donné, les gars, moi, vous me faites rire avec Nasser. Vous êtes en train de dire Nasser ceci, Nasser cela.
Neymar a signé au PSG et que c'était ça dépendait pas du tout de Nasser à la life. Mais bon, je te laisse terminer.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète des joueurs qui connaissent pas le projet.
Neymar a signé au Paris Saint-Germain parce que le Qatar était en pleine crise diplomatique avec ses voisins Emirati et qu'ils ont juste voulu faire la nique, passe-moi l'expression, à Manchester City. Mais ça a été prouvé après par la suite, c'est pas Nasser qui a décidé de signer Neymar et qui a fait tout pour signer Neymar.
Le fait est que Neymar Mbappé signe pendant le mandat de Nasser Al Khelaifi.
Comment ça se fait qu'il a mandaté plus mis à vie pour faire le deal?
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est délégué auprès de mecs qui savent faire des montages financiers.
Il a délégué.
Et c'est le cas d'Antero aussi.
Mais comment ça se fait déjà qu'il délègue? À la base, comment ça se fait déjà qu'il délègue? Il a un directeur sportif, c'est lui qui doit aller voir les joueurs.
C'est lui qui ramène Zavi dans le deal aussi.
Mais si Pinizavi il est là, alors regarde, je vais te donner le meilleur exemple. Il y a Paqueta là. Le PSG, ils sont sur Paqueta. D'accord? Il y avait personne sur Paqueta. Le PSG, ils ont envoyé la sauce, ils ont dit Néocuto, Paqueta. Il vient cet hiver, on donne 50 millions. On donne 50 millions pour Paqueta. Donc ça a traîné. Xavi, il a dit à Enrique, fais-le maintenant parce que sinon tu vas te faire baiser. Et ben, entre-temps, il y a Milan qui est arrivé.
Et il y a tout ce que je dis, il faut mettre le directeur com qui a signé Jordan, peut-être faut le mettre directeur sportif, parce que lui, il est bon, hein.
Merci Pierre.
Je vous en prie. Allez.
Bonne soirée, Pierre.
Ciao.
À bientôt. Salut.
À vous aussi. Allez, merci beaucoup.
Bisous, Pierre. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne ce soir. On continue d'analyser ce match dans quelques instants. On sera avec Tariq également qui veut s'exprimer sur cette victoire du Paris Saint-Germain. Et on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio avec Jonathan Bacardi et Ludovic Aubragnac. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovic Aubragnac et de Jonathan Bacardi, vous êtes très nombreux à nous appeler ce soir au 32-16, à revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 face à l'AS Saint-Etienne. L'une des affiches de cette cinquième journée de Ligue 1 un peu plus tôt ce soir, eh bien Nice a battu Rennes 2-1. On vous attend, supporters niçois, supporters rennais, au 32-16 également. Je vous donne quelques petites stats sur ce match entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. C'est Nico Pelletier qui est allé nous dénicher ça. Cavani, c'est 3 buts en Ligue 1.
3 tirs cadrés.
Voilà, c'est énorme, hein. C'est magnifique. Hein.
5 tirs.
Et le Paris Saint-Germain est la première équipe à inscrire au moins 3 buts en Ligue 1 sur ses 5 premières journées depuis le Stade de Reims en 52-53. Voilà, ils sont vraiment en train de démarrer.
Bon début de
tambour battant. Je donne quelques petites infos avant de faire les vals avec Tariq, qui nous a appelé au 32-16. Nasser s'est exprimé auprès de Marca, longue interview. Tu faisais allusion tout à l'heure au fameux contrat avec Michael Jordan, là, le contrat Air Jordan. Contrat sur 3 ans. Nous parlons de 100 millions d'euros, a expliqué Nasser Al-Khelaifi. Alors c'est un argent d'ailleurs, de l'argent qui pourrait servir pour le fair play financier,
bien sûr, ouais.
Dans le cadre du fair play financier.
Ça rentre dans les recettes du club.
Et Nasser qui en a profité également pour commenter les approches du Real Madrid envers Neymar. Je cite Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Pour être honnête, c'est un peu frustrant parce que ce n'est pas juste que d'autres clubs parlent avec nos joueurs. Nous n'aimons pas vraiment ça. Et nous en avons parlé lorsqu'il a fallu avec le Real Madrid. Nous avons une bonne relation avec eux. Ils respectent le PSG. J'espère que c'est vrai, en tout cas. Nous respectons le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Mais je pense qu'il est important que chacun ne travaille pas dans le dos de l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, pas content Nasser Al-Khelaifi, voilà qui met un peu les points sur les i avec le Real Madrid concernant Neymar.
Ouais, c'est une bonne guerre, mais c'est vrai que c'est jamais.
C'est vrai qu'ils l'ont jamais fait aussi. C'est ça qui est quand même assez dans ce genre de truc, c'est ça qui me fait toujours marrer, quoi.
Donc, non, mais bon, il défend ses intérêts. C'est vrai que Neymar, c'est la figure de proue du club et on peut le coup marketing que tu réussis avec Jordan.
Bah, c'est lié.
Il est en grande partie dû à Neymar, évidemment. Parce que si t'as pas Neymar et
En plus, c'est les gérés de Nike aussi.
Mbappé maintenant et Jordan, ils viennent jamais chez toi.
Disons que Neymar en plus t'ouvre un marché auquel le Paris Saint-Germain n'avait peut-être pas forcément accès auparavant. Mbappé est une star en France, en train de devenir une star globale à l'international, chose que Neymar est déjà.
Non, mais au-delà des 100 millions, niveau marketing, niveau vue, niveau tu t'associes à une marque qui est mondialement connue.
C'est sorti quand ça, hier, non, l'histoire de Jordan. Mais moi je vois déjà des mecs dans la rue avec les
avec le logo.
Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Tiens, on va se faire l'évaluation de ce Paris Saint-Germain Saint-Étienne. Ah. On va accueillir Tariq, supporter du PSG qui nous a appelé au 32-16. Salut Tariq.
Salut l'équipe, salut. Bon, ça va?
Salut Tariq. Ouais, et toi Tariq?
Ouais, ça va à part par rapport à Paris, moi je les trouve un peu flippants.
Bah merde, t'as gagné 4-0 en plan, ce soir.
Intéressant, sur quel plan?
Défensif, sur le plan défensif, sur le plan d'équilibre de l'équipe, je les trouve vraiment, vraiment flippants. Ils concèdent énormément d'occasions. En première mi-temps, ils ont concédé énormément d'occasions. Heureusement que c'était Saint-Etienne en face. Comment?
Ça reste une bonne équipe, Saint-Etienne.
Non, ça reste une bonne équipe. Moi, ils m'ont, par rapport aux années précédentes, au niveau du fond de jeu, etc., ils sont vraiment pas mal. C'est une bonne équipe. Mais contre Liverpool, ça sera pas la même chose.
Ah, dans le milieu de terrain, comme Ludo l'a dit en début d'émission, on va pas falloir jouer le même petit jeu. Hein.
Après, je me dis aussi que voilà, ce soir, t'es dans la facilité. Le PSG peut se le permettre quand il voit comment se déroule, même si sur le premier quart d'heure, on peut être un peu inquiet. Après, sur le déroulement du match, on voit qu'ils ont joué facile à leurs mains parce qu'ils ont senti que c'était simple. Après, ces joueurs-là, pour les avoir vus souvent en Ligue des Champions, là, les grands champions, ils élèvent leur niveau contre les grosses équipes.
Ludo.
Voilà, je suis assez impatient de voir le match contre Liverpool parce que je sais que un mec comme Bernat, qu'on est en train de débattre sur son niveau du match de ce soir, je sais que c'est quelqu'un qui a l'habitude des rendez-vous Ligue des Champions, qui en a l'expérience. Verratti, pareil, ils seront galvanisés par ce rendez-vous parce qu'ils attendent.
Bah,
ils ne jurent que par ça.
C'est le début de leur saison, c'est qu'on y va.
Donc ils élèveront sans aucun doute leur niveau de jeu et leur carence qui a été la seule pointe d'inquiétude.
Tariq, on se fait l'éval. Vas-y, l'évaluation.
Ça fait court quand même. Moi, tu dis qu'ils peuvent se permettre, etc. Bernat, moi, je l'ai trouvé vraiment flippant. Je sais pas, mais vraiment, il était flippant.
Dans le système
A4, il a gagné la moitié de ses duels, hein, par exemple, hein, ce soir. C'est pas beaucoup.
Ah ouais, mais vraiment,
c'est pas le joueur qui va aller gagner des duels à l'épaule. Hein. C'est un joueur qui a un contre-attaquant, en fait.
On a pris la copie conforme de Kurzawa, en fait. Je comprends pas. Bon devant. Oui. Mais bon devant et derrière défensivement catastrophique en fait. Vraiment en un contre un, que ça soit dans le duel aérien ou les ballons qui arrivent en contre-attaque, il était perdu.
Il me semble que Guardiola, il faisait souvent jouer au milieu de terrain d'ailleurs.
Ouais, parce que c'était Alaba qui faisait.
Non, il le mettait aussi. Il me semble que Guardiola lui a aussi fait jouer des matchs au milieu de terrain.
Il a perdu.
Bah tiens, justement, on est en train de balancer des noms. On va se faire l'évaluation de ce Paris Saint-Germain Saint-Etienne. Qui mettez-vous cador de ce match?
Adrien Rabiot.
Ah ouais.
Moi, je l'ai trouvé. Alors, c'est vrai qu'il fait partie du milieu de terrain qui prend un petit peu loin en première mi-temps, mais en seconde, je l'ai trouvé impérial et encore meilleur quand il a été repositionné devant la défense après la sortie de Verratti. Je trouve que il fait un match qui est énorme et un début de saison qui est énorme. Et c'est un joueur.
Il y a le nom d'un mec qu'on a pas encore prononcé depuis le début.
Sinon,
Edinson
Cavani.
Je vais mettre Draxler.
Et ben voilà, j'allais dire, il y a le nom d'un mec qu'on n'a pas prononcé. On rappelle qu'il y avait pas, il y avait ni Neymar ni Mbappé aujourd'hui. Il a joué et il a fait le taf.
Lui, il a vraiment l'esprit club. Il est. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, on peut pas dire qu'on lui a laissé, on lui a donné beaucoup à ce garçon. Jamais un mot plus haut que l'autre, capitaine de la Mannschaft, il aurait pu quand même à un moment donné
gueuler un peu, ouais.
Bah, faire preuve d'un peu plus de véhémence. Après, ouais, voilà, à chaque fois qu'on fait appel à lui, au début, voilà, il a raté quelques trucs, mais techniquement, c'est quand même une valeur. Ce qu'il fait, alors
il a quand même été assez irrégulier à ses débuts aussi.
Ouais.
Et ben vraiment, on parle de ce soir.
Mais c'est un garçon qui a besoin de jouer régulièrement.
Toilier ce soir, tu mettrais qui, toi, Tariq?
Cador. J'aurais pas dit comme vous, j'aurais dit soit Kimpembe ou soit Di Maria. J'ai bien aimé Di Maria
très bon.
Ouais, ce sera Draxler.
Très bon.
Comme ça, voilà.
Ouais.
Moi,
je suis d'accord.
Le boulet ce soir. Qui pourvoit le boulet de ce match?
La Sanagera.
Viens. Ouais,
mais on n'est pas obligé de mettre un Parisien, hein. On peut mettre un Stéphanois.
Ouais, mais Stéphanois, c'est un petit peu dur de ressortir un joueur qui a vraiment été mauvais. Moi, non, la Sanagera.
Pied carré.
C'est dur aussi, mais Loris Diony.
Ouais, pour son occasion ratée au début.
Ouais.
On va pour Diony. C'est con parce qu'il faisait un bon début de saison. Vous êtes dégueulasse pour Diony.
Attends, mais tu m'as dit Casper ou
Pied Carré? C'était pour mais Pied Carré.
Pied Carré, le Diony.
Qui est le taulier de ce Paris Saint-Germain Saint-Etienne pour vous?
Cavani alors, dans ce cas-là.
Je sais pas, tu dis ce que tu veux, mec.
Cavani, il marque à chaque fois, il est toujours présent, il fait le taf.
Je suis assez d'accord.
Pas là, non,
il est toujours Cavani, là, Cavani.
Ouais.
On est d'accord?
Il est toujours Cavani, là, c'est sûr. Ouais, même si je trouve qu'il est, quand même moins en vue quand les deux autres sont pas là. Ce soir, il marque, il est toujours dans ce qu'il sait faire de mieux,
c'est-à-dire
qu'il bataille, il est là, il participe, mais c'est vrai que quand les deux autres sont avec lui, il bénéficie quand même de beaucoup plus d'espace. Mais bon, moi j'aurais mis Rabiot quand même.
Et qui pour vous est le Casper de ce Paris Saint-Germain Saint-Etienne?
Rabi Kadri.
C'est vrai que forcément non, mais c'est un peu ce que disait Mvila tout à l'heure, hein. Devant, ils ont eu beaucoup de mal à exister, les Stéphanois. C'est pas de sa faute, mais ça peut être
Casemiro. C'est un joueur sur lequel t'attends quand même.
Ouais, mais t'attends qu'il ait des ballons, surtout. C'est un joueur qui attend des ballons.
Ouais, mais c'est un joueur qui est aussi capable de revenir un peu plus bas, chercher la balle, toucher la balle. Quand tu vois que ton milieu de terrain est un peu en manque d'inspiration, je m'attends de lui qui vienne et qui apporte un peu de créativité.
Il est pas mis dans les meilleures conditions ce soir quand tu joues si loin du but adverse.
Mais il est un peu symbolique du fait que Saint-Etienne a été totalement inoffensif ce soir.
Si on récapitule l'évaluation de ce Paris Saint-Germain Saint-Etienne, Cador, on a mis Draxler, Pied Carré, on a mis Diony, Toli, on a mis Cavani et Casper, on a mis Kadri. Ça fait beaucoup de
Salibur qui a aussi pas mal essayé dans les
Salibur était pas mal
sur la première mi-temps, qui a essayé de créer des percussions, il a pas tout le temps été suivi dans sa démarche, mais je l'ai trouvé
inspiré.
Il était très motivé. Ouais.
Bon, Tariq, t'es chaud pour mardi le match de Ligue des Champions Anfield pour le Paris Saint-Germain?
C'était ce que j'allais vous demander. Moi, avant ce match-là, j'étais chaud, j'étais un, on va dire pas mal confiant. Après, c'est vrai qu'il manquait Neymar et Mbappé, mais moi vraiment, je vous le redis, j'ai pas du tout été rassuré par la défense. Mais vraiment,
il va replacer Marquinhos. Ouais,
il va remettre
Marquinhos pour couper les actions,
les
actions.
Vous vous rendez compte, on en est arrivé où à mettre peut-être Marquinhos au milieu de terrain? Il y a un gros problème.
Mais
on en discutait tout à l'heure.
Finalement, tu payes les erreurs passées et aujourd'hui tu fais avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on voit à travers le recrutement du PSG, tu vois que cette année, tu peux pas faire autrement. Et la difficulté aujourd'hui dans le monde du foot de trouver des gauchers. Qu'aujourd'hui, c'est là. Un latéral comme Bernat, tu l'aurais jamais vu au PSG en temps normal.
Clair,
Aujourd'hui, le PSG fait avec la situation du moment qui fait qu'ils ne peuvent pas dépenser plus qu'ils ne l'ont fait.
On remercie Tariq qui nous a appelé au 32-16. Et nous, dans quelques instants, on va revenir sur la victoire de Nice 2-1 face à Rennes ce soir, supporter niçois, supporter rennais. On vous attend au 32-16. On a une petite réaction sur le hashtag RMC Live de Tony qui nous dit véhémence dans la bouche d'un footeux. Ça claque.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Ludovico Bragnac et de Jonathan Macardy, vous êtes très nombreux ce soir sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio et au 32-16, on a analysé la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 face à l'AS Saint-Etienne, l'une des premières affiches de cette cinquième journée de Ligue 1. Et un peu plus tôt ce soir, Nice a battu Rennes 2-1. On vous attend, supporters des Aiglons, supporters de l'Herbin Rennes au 32-16 pour revenir sur ce match. Juste le temps de vous annoncer qu'à partir de demain sur RMC Sport 2, il y aura le Décastar à suivre en intégralité et en exclusivité. Les meilleurs athlètes mondiaux des épreuves combinées seront à Talence en Gironde et Kevin Mayer pourra y battre plusieurs records. Voilà, ce sera sûr demain. Ce sera demain et dimanche d'ailleurs également.
Ok.
Non mais toi qui aimes bien les sports, enfin.
Très beau meeting.
Moi franchement, hey, très, les très gars, on va pas se mentir. Moi par le foot, voilà. Mais je trouve que ça c'est un truc de taré. Les Décathloniens, c'est des malades les mecs. Hein. Voilà, c'est dit. Ce sera donc à suivre demain sur RMC Sport 2. Nice s'est imposé 2-1 face à Rennes.
C'était un beau match.
Ouais, c'était pas. Alors ouais.
C'était un bon match.
Wow. C'était pas mal, ouais.
Sympa.
Sarr a marqué contre son camp à l'heure de jeu. Saint-Maximin a égalisé pour Nice à la 77e. Et en toute fin de match, c'est Les Melou qui a donné la victoire aux Niçois. À noter qu'à la 20e minute de jeu, Bourigeau a vu son péno arrêté par Walter Benitez, qui a fait un sacré match lui aussi, le gardien de Nice.
Trois pénaux arrêtés sur les six derniers.
C'est fou, c'est dingue. Hein.
C'est un bon gardien.
C'est dingue. Hein.
Et comme quoi, tu vois, on en parlait il y a pas si longtemps.
Non, mais on se demandait comment, pourquoi il n'était pas titulaire.
La présence d'esprit de le mettre.
Vieira a quand même fait un choix quand même assez judicieux sur le changement de gardien et c'est payant pour lui.
Mais... On rappelle que Nice restait sur une victoire face à Lyon déjà. Ah, deuxième victoire de suite pour Nice qui avait bien mal démarré sa saison. Et ce soir, au niveau du contenu, c'était quand même vraiment pas mal ce qu'a fait Nice.
C'était top.
En fait, ce qui est intéressant... c'est que cette équipe elle avait même dans les matchs qu'elle a perdu elle a montré beaucoup de personnalité. L'équipe, tu sens que les intentions sont claires, c'est une équipe qui va vers l'avant, qui aime bien avoir le ballon, qui va rapidement, qui a de la qualité à toutes les lignes. Et je trouve, en fait, par rapport au match qu'ils perdent en début de saison, je trouve qu'enfin le système défensif devient de plus en plus cohérent. J'ai bien aimé leur défense ce soir, même si il y a eu 2-3 petits flottements encore. Tu t'attendais peut-être à ce que, à l'instar des premiers matchs du début de saison, et ils craquent au bout d'un moment, mais non, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus solide. Et puis Saint-Maximin est vraiment pas mal en ce moment.
Principal changement pour moi, c'est l'état d'esprit. Après le match de Dijon, on a vu tout le monde tête basse. Patrick Vieira vraiment pas à l'aise, presque il avait déjà renoncé. Et puis là, la victoire surprise à Lyon, où il faut quand même le reconnaître, ouais. Nice avait beaucoup souffert. C'était un hold-up. Ils ont dû bien travailler pendant la trêve. Retour de Jallet. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les cadres ont repris leur place dans cette équipe.
Dante
a été bon ce soir. Jallet a été très bon. Moi, j'ai vraiment une affection particulière pour le petit, il a 25 ans, mais Les Melou, j'adore, c'est top. Je trouve ce garçon pétri de qualité. Faut savoir qu'en 2015, il était encore à Lesch-Cap-Ferré. Ouais. Quand même, faut le rappeler. En 3 ans, je trouve, il apporte une vraie plus-value à cette équipe et quand il est en forme comme ce soir, il peut être à la construction du jeu, il est en même temps à la finition. Saint-Maximin qui prend ses responsabilités devant et le petit Maolida aussi très intéressant.
Et surtout,
lui il a pas eu de bol pour le coup.
Et RL,
il a marqué deux fois.
Moi je le trouve toujours bon.
Bon, moi de toute façon je vous en parle puis qu'il en a.
RL, et ce soir il a été très très bon et je trouve qu'en plus par rapport aux qualités qu'il a habituellement, je l'ai trouvé bien méchant et dur sur l'homme.
Ouais.
C'est vraiment en train de devenir un super défenseur.
Moi il y en a un. Enfin j'ai une affection aussi particulière pour lui. Enfin j'adore le joueur. Hein, je le connais pas personnellement mais c'est Saint-Maximin. Putain, mais ce mec, il pourrait faire. Enfin, je sais pas. Tu dis qu'intrinsèquement, il a de telle qualité, ce gars, ce joueur.
Mais il est bien dans l'axe comme ça là.
Ah, moi,
c'est mieux dans l'axe.
On a presque oublié que Balotelli était pas là ce soir.
Exactement.
Il était pas là.
Non.
Exactement. On va accueillir Alexis, supporter des Aiglons, qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans l'after. Salut, Alexis.
Salut Nico, salut Jonathan, salut Ludovic, ça va?
Bonsoir Alexis.
Bon Alexis, alors enfin outre la victoire ce soir, il y a le contenu, on vient de le dire, mais c'est vrai que ça a vraiment pas mal joué Nice face à Rennes là.
Ouais, on a vu vraiment un beau match, on s'est pas ennuyé hein, pour un vendredi à 19h. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi on jouait le vendredi à 19h. Le stade, il était vide encore. Après, on a vu un beau match. Après, j'ai franchement eu peur en étant mené 1-0, vu on a fait une belle première mi-temps, malgré le pénalty repoussé où Rennes aurait pu être devant. J'avais vraiment peur en étant mené 1-0 qu'on coule comme on a coulé contre Dijon. On n'a pas été assez réaliste, on n'a pas transformé nos occasions. Les Melou, il touche le poteau. Puis après, une belle réaction. Je sais pas si vous avez vu, à un moment, Attal, il simule dans la surface. On croit qu'on va avoir pénalty derrière, pénalty refusé à la vidéo.
Et ça galvanise tout le monde, au contraire, derrière.
Ouais, derrière, ça galvanise. J'avais peur que ça fasse l'effet inverse, en mode, on va encore s'en prendre... Contre Dijon, c'était le même match, à peu près. Hein. On avait dominé, et derrière, on en prend 4, quoi. Alors là, c'est bien, on va pas s'enflammer. C'est vrai que dans le contenu, je vous écoutais, c'est vrai que c'est dans le contenu, s'il y a vraiment de la progression, il y a un jeu vers l'avant, comme vous le disiez, on retrouve un petit peu, on va pas s'enflammer non plus, mais on retrouve un petit peu les principes de jeu qu'on avait la saison dernière et la saison encore d'avant, on avait fini 3e. Après, là, il y a un déplacement à Montpellier, un déplacement à Nantes et la réception de Paris. Ça fait deux déplacements et gros, réception ouais. de Paris derrière, quoi.
Mais donc, en fait, juste pour te répondre également, Alexis, sache que si le match s'est joué aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'Ironman de Nice ce week-end.
D'accord, ok.
Voilà. Il y sera, Gilbert?
Bah, je sais pas, ouais, mais en tout cas, voilà.
Non, mais ce qui manque à cette équipe, c'est clairement, mais on va le dire, on le dit depuis le début de la saison, hein, mais c'est du réalisme offensif parce qu'ils se créent beaucoup de situations. Alors, Saint-Maximin, moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de le voir positionné comme ça dans l'axe. Maolida, tu sens qu'il a plein de qualités, mais qu'il est encore un petit peu vert, hein, c'est normal. Il a quel âge?
Il m'a plu ce soir, Maolida, quand même. Hein.
Comment?
Il m'a plu ce soir, malgré les occasions loupées.
Bon.
Il a l'envie quand même.
Ouais, il a pesé.
Je pense que l'enjeu de leur saison, alors je sais que voilà, ça fait pas l'unanimité en ce moment, mais l'enjeu de leur saison, c'est que Balotelli revienne en forme, c'est-à-dire débarrasser de ses kilos en trop, dans les bonnes dispositions, parce que il va en avoir des ballons et il a quand même un sens du but que les deux autres n'ont pas.
Non, mais c'est surtout aussi, moi j'ai senti l'unité, la force de caractère, l'esprit retrouvé, notamment sur les buts. J'ai vu les joueurs aller vers Patrick Vieira. Et ça c'est révélateur. Ça veut dire que malgré il était pas.
Pourquoi tu doutais? T'avais peur qu'il soit pas.
Non,
avec
mais
le
je l'ai senti. On les a sentis tellement fébriles après ce match de Dijon. Je les sentis tellement touchés, tellement renonciateurs. Que là, voir cette équipe là ce soir à Lyon, j'avais déjà bien aimé. Ils avaient subi, mais ils avaient joué leur va-tout, ils avaient été intéressants. Là, ce soir, ils ont repris le contrôle. L'état d'esprit y était, force de caractère. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match et la réaction positive de Patrick.
Lou,
après, moi, je pense que la défense là, faut plus la toucher. Hein. La défense à 3 comme ça avec RL, Dante et Sarr, c'est faut plus toucher à ça. Je pense que il a trouvé une base de travail sur lequel s'appuyer. À Dijon justement, j'ai trouvé que le système défensif, ils jouaient à 4 derrière avec RL et Dante, il me semble, s'il y avait quelques trous. Là, on sent que les 3 ensemble, c'est quand même hyper complémentaire.
Merci Alexis de nous avoir appelé.
Ouais, bah, je voulais juste rajouter qu'on attendait qu'on confirme. Après la victoire de Lyon, miraculeuse, on ne sait pas comment on a gagné. On est allé à Lourdes après, quoi. J'attendais confirmation. Là, ce soir, la confirmation, on l'a eu parce que franchement, j'étais pas confiant avant ce match-là. Et
là, t'as deux déplacements à venir, à Montpellier, à Nantes. Ensuite, il y a le Paris Saint-Germain, match à Toulouse et il y a Marseille ensuite qui viendra à l'Alliance.
Ouais, le calendrier est pas facile, mais bon, il y a des belles promesses ce soir. Voilà, c'est ça. Bonne soirée.
Merci, salut Alexis, à bientôt. Alexis. Ciao, Alexis. Un petit mot sur Rennes quand même, les gars. Alors, Rennes qui va jouer jeudi, en Ligue Europa face à Yablonets, également. C'est pas la meilleure des préparations pour eux non plus. Elle est vraiment, on a l'impression de se répéter à chaque fois, mais elle est tellement instable et irrégulière, cette équipe de Rennes.
Est-ce que t'as compris comment
elle est impronosticable?
Pour moi, il y a un déséquilibre à chaque fois.
T'as compris comment il jouait ce soir?
J'ai compris comment il jouait. Après, pour moi, le déséquilibre, il est surtout entre les forces en présence offensive et les forces en présence défensive. Tu réussis un mercato magnifique sur le plan offensif, mais sur le plan défensif, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand même. Mais non, mais quand je vois aussi Ben Sebaini, comment la manière dont il défend sur le penalty qui est pas penalty, mais tu t'es défenseur de trois quarts, faire un tour sur toi-même, te retourner comme ça dans la surface de réparation, c'est interdit. Tu peux pas faire ça. Et puis derrière, ils ont quand même pas mal subi tout le match. C'est pour ça que pour moi la victoire de Nice est méritée. Après, Atem Ben Arfa, on peut en parler, mais le faire rentrer.
Bah tiens, il y a un sondage qui nous a été préparé par Laurent Fala. Je vous le retrouve. Sabri Lamouchi aurait-il dû faire rentrer en jeu Atem Ben Arfa face à son ancien club de Nice? C'est hyper mitigé.
Mais sûrement pas.
Il est pas prêt.
51% de non. Donc 41% de oui.
Mais pourquoi le faire rentrer? T'as subi tout le match.
Et en plus,
Atem, il est à court de forme.
Ça serait pas lui rendre service.
Tu le fais rentrer à Rennes.
En tout cas, les gens sont partagés sur cette question.
Surtout dans le contexte, c'était quand même relativement hostile vis-à-vis de lui ce soir.
Et puis honnêtement, moi qui ai connu les deux, c'est-à-dire que moi qui étais en partie titulaire et puis parfois remplaçant à Lille en fonction des années, je peux confirmer que quand t'es en manque de jambes comme ça, c'est beaucoup plus dur de rentrer dans un match, même un quart d'heure, 20 minutes, que de le commencer. Ouais. Donc je pense qu'avec Atem, il faut faire le choix inverse. C'est-à-dire de pas le faire rentrer sur un quart d'heure, 20 minutes.
Il faut le faire
jouer une heure. Non, tu le fais jouer 60 minutes. À Rennes, le prochain match à domicile, tu le fais commencer.
Je me demande comment il va s'en servir, Parce que...
Là, ce soir, avec le même problème que Kasri avec Saint-Etienne.
Il va le faire jouer où, en fait?
Bon, ça, après, c'est le problème de Sabine Amouchi, mais moi, je le mettrai.
Ça, on verra dans les prochains temps. Messieurs, je vous donne quelques infos également du jour. Rio Mavuba, nouveau membre de la Dream Team RMC Sport, s'est engagé avec Mérignac Carlac en National 3.
Bravo.
Voilà, il y a encore des mercato. Mmh. Demain, 17h, Caen Lyon. Sachez que Dembélé dans le groupe lyonnais, demain. Demain, 20h, il y a Amiens Lille également. Ganso est dans le groupe des Picards. À Lille, Rui Fonte qui vient d'arriver est dans le groupe lillois. Il est pas mal, ouais. Bon petit attaquant qui était à Fulham. Noël Legret s'est exprimé sur les cas Augustin et Rabiot dans West France. Alors sur le cas de l'international espoir qui avait décliné la convocation de Ripoll au début du mois, le président de la FFF a déclaré, je cite, « On a monté un dossier juridique sévère auprès de la FIFA au sujet de Jean-Kevin Augustin. C'est une question de respect des sélections, quelle qu'elle soit. Le joueur convoqué en espoir dit, et par texto, qu'il a trop mal aux jambes pour venir. Et on le voit jouer un match amical avec son club de Leipzig et marquer 2 buts. Vous imaginez si tout le monde fait ça ? Concernant Adrien Rabiot, qui avait refusé d'être réserviste pour le Mondial, Le Graët déclare, je cite, « Je dois le recevoir prochainement, il a fait une grosse bêtise, il ne sera pas puni éternellement, mais ce n'est pas certain que Didier Deschamps le reprenne tout de suite. »
Donc là, dans la même phrase, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que pour Rabiot, c'est ok, il a refusé, mais il peut. Augustin, non, lui,
c'est pas pareil, c'est parce qu'Augustin, il a sorti une excuse qui était une grosse saucisse, et puis on le voit jouer en amical.
Il avait déjà eu des embrouilles.
Et il avait déjà un passif, et Rabiot, au moins, il a assumé ce qu'il a fait. Tu vois, en termes, si je résume, enfin, c'est quand il a quand même été cohérent dans sa démarche.
Je comprends la démarche.
Il a assumé.
Il s'est enfoncé, surtout.
Ouais, mais il a assumé.
Oui, mais dans ce cas-là, t'es président de la FED, tu dis, il veut pas venir, il vient pas, voilà.
Mais moi, je trouve ça bien. Tu vois, que le mec qui est cohérent de A à Z.
Alors, je vais dire, pour rejoindre ce que dit Ludovic, je trouve que c'est maladroit de parler des deux cas dans le même truc. Mais bon, après, c'est
ça. Et puis, Jean-Kevin Augustin, il veut pas venir, bah, il est exclu, puis c'est tout, terminé. Passe à autre chose, t'as pas envie de venir en équipe de France, garçon. Eh ben, reste chez toi, y a pas de souci. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller attaquer avec la FIFA?
Ouais, ça, c'est ridicule.
Et
c'est
en plus, tu vas pénaliser le club peut-être de Leipzig. Aucun intérêt. Aucun intérêt.
Dimanche, 17h, il y aura Bordeaux-Nîmes. Alain Juppé, maire de Bordeaux et pote de Ludovic Obraniak, a reçu Joe Dagrossa, dirigeant de GACP, le fonds d'investissement qui est en passe de racheter les Girondins. C'est une chance pour le club, a déclaré Juppé, qui a assuré ne pas s'être immiscé dans les négociations pour le rachat du club.
Ouais, si ce n'est sur la location peut-être du stade.
Oui, mais la mairie a des billes, donc forcément, c'est public-privé. Oui,
mais tu payes une location. Donc là, ils étaient en rendez-vous pour négocier sur probablement la location qui est très lourde du côté du stade de Bordeaux.
Dimanche à 21h, Marseille-Guingamp, match que vous pourrez suivre bien entendu sur RMC. Mitroglou touché à la cheville avec la Grèce et apte. Et touché
à la passe D avec la Grèce.
Oui, bon match. Touché à la cuisse et forfait depuis 3 semaines, Mandanda pourrait revenir jeudi en Ligue Europa face à l'Eintracht Francfort. Voilà.
Ok.
Ça te rassure pas toi, Marseillais?
Bah, je suis content que Mitroglou ne soit pas out parce qu'il est sur une bonne dynamique. J'ai vu son match avec les Grecs, il était très intéressant et on sent qu'il est en net regain de forme par rapport à ce qu'on a vu de lui l'année dernière.
Il était hyper affûté il y a 10 jours. Il était vraiment bien.
Avec la Grèce là, il était très bon, franchement.
Et demain, 20h, il y a Toulouse-Monaco. Alors juste, je vais pas vous donner le groupe de Monaco, je vais vous donner le groupe qui est à l'infirmerie. Golovin, Pellegrini, Jubels, Radji, Subasic, plus Jovetic, Rony Lopez, Pierre Gabriel. C'est lunaire le nombre de blessés qu'il y a à Monaco depuis le début de la saison. On le sait.
Problème de prépa physique.
Ouais, peut-être dû recruter un médecin, je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça pue quand même, c'est pas très bon.
Après, en plus, couplé à leur début de saison, Jardim, là, à mon avis, il a des sacrés maux de tête.
Ouais. Messieurs, on vous rappelle les résultats des deux premières affiches de la 5e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 face à Saint-Etienne. Et Nice a battu Rennes 2-1. Merci Ludovic Obraniak.
Merci à vous.
Merci Jonathan McCarthy.
Merci Nicolas Villiers.
Merci à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont aidés à préparer cet after. Et nous, on se retrouve demain après les affiches de Ligue 1, bien entendu. Bisous, bonne nuit. À demain.
Tout le foot avec
maxouti.com,
le site français pour la maison, le bricolage et l'outillage professionnel. maxouti.com.
RMC Football Show, l'After Foot.